Radio Capi.
Le journal présenté par Gisèle Cage.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Capi. Nous sommes aujourd'hui jeudi 14 août et comme chaque jour, nous vous proposons votre journal d'information. Un rendez-vous incontournable pour rester informé de l'actualité en République démocratique du Congo et dans le monde. Affaire Mutamba, accusé de tentative de détournement de 19 millions de dollars. L'ancien ministre de la Justice attend le verdict prévu le 27 août. Le ministère public requiert une peine exemplaire tandis que les prévenus dénoncent une instrumentalisation politique de la justice. Des vies en danger en Ituri, près de 300 malades privés d'accès aux soins dans la zone de santé des Mangala, alors que les opérations militaires des FARDC contre les miliciens groupe Zaïre paralysent les structures sanitaires du territoire de Djougou. Invité de la rédaction, l'archevêque Dodo Kamba, coordonnateur du Conseil interreligieux congolais, revient sur l'initiative portée par la CENCO et l'ECC visant à promouvoir une paix durable et inclusive dans un contexte national marqué par les crises. Le temps est donné dans ce journal avec une affaire judiciaire qui retient l'attention. Le verdict dans le procès de Constant Mutamba est attendu pour le 27 août prochain. La Cour de cassation a mis le dossier en délibéré ce mardi après une audience marquée par des réquisitoires sévères du ministère public. L'avocat général Sylvain Kalula a requis une peine de 10 ans de travaux forcés contre l'ancien ministre de la Justice assortie de 10 années d'inéligibilité une fois la peine purgée de la privation du droit à la liberté conditionnelle et de son exclusion définitive des fonctions publiques. Il accuse Mutamba d'avoir tenté de détourner 19 millions de dollars, une infraction qu'il estime établie. Face à ces accusations, le prévenu a plaidé non coupable, dénonçant un procès qu'il qualifie de complot politique. Pour des détails, Jeff Ngoy.
Selon le ministère public, l'argent des morts ne doit plus jamais servir à enrichir les vivants. Dès lors que le délinquant l'avait viré du compte de Frivao du ministère de la Justice vers celui de la société Zion Construction, fictive et dont les actionnaires seraient en cavale. Cet argent payé par l'Ouganda au titre d'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours a été réaffecté par le prévenu à la construction d'une prison à Kisangani. Il évoque un virement irrégulier et l'absence des outils du projet de construction sur terrain. Mais la défense qualifie ce réquisitoire d'une honte pour les étudiants en droit et innocente l'ancien ministre. Elle soutient que les fonds incriminés sont toujours disponibles à la banque. Rien n'a été détourné. D'après les avocats de la défense, plusieurs témoins du ministère public passés à la barre ont déchargé leurs clients dans ce procès. Il conclut à un doute qui profiterait à l'accusé pour insuffisance de preuves. Cependant, le témoin de la Robank, intervenu le dernier sur invitation de l'organe de la loi, charge le prévenu. Il demande les affirmations de ce dernier et renseigne que l'argent de Frivao était plutôt logé dans un compte courant et non séquestre.
Une urgence sanitaire se joue sur le terrain en Ituri. Des centaines de vies sont en danger dans le territoire de Djougou. Près de 300 personnes atteintes de tuberculose ou vivant avec le VIH sont actuellement privées de soins médicaux. En cause, les opérations militaires intensives menées depuis près de 2 semaines par les forces armées de la RDC sur l'axe Nizi-Mabanga. Ces offensives visent les combattants du groupe armé Zaïre allié aux rebelles de la Convention pour la Révolution populaire CRP. Les affrontements ont paralysé l'accès aux structures sanitaires locales, mettant en péril la vie des centaines de malades déjà fragilisés. Un reportage signé Jean-Claude Lokidile.
Ce blocage empêche l'acheminement de médicaments pour plus de 80 000 habitants. Le médecin chef des zones de santé de Mangala, le docteur Jacques Savo, alerte sur une rupture totale des stocks, y compris pour le traitement du paludisme. Conséquence, l'hôpital général des références de Mangala et les 6 aires de santé ne peuvent plus prendre en charge leurs patients, contraignant certains tuberculeux et séropositifs à interrompre leur traitement avec des risques graves pour leur santé.
Oui, exactement. Nous avons de grandes difficultés parce que la route est bloquée jusqu'à ce jour. Il y a aussi un déplacement de la population. D'ici là, on aura des problèmes de nutrition. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, il y aura un taux élevé de décès parce que les gens n'accèdent pas aux soins. Et tous les autres médicaments contre le palu, le VIH, mais aussi les autres médicaments tels que les amoxicillines, les ampicillines, les gentamicines, tout ça, ne peuvent pas arriver dans la zone maintenant parce que la zone n'y a pas accès. Ce qui va encore atteindre un décès élevé dans la communauté.
La pénurie touche également les structures médicales privées qui peinent à renouveler leur stock, une situation qui pourrait pousser certains malades à se tourner vers les charlatans ou vers les pratiques traditionnelles à risque. Les autorités sanitaires plaident pour l'ouverture urgente d'un couloir humanitaire afin d'acheminer les médicaments. Pas de réaction pour l'instant de l'armée. Bounia, Jean-Claude Loki, Lille, Radio Capi.
Toujours en Ituri, notre crise se profile cette fois sur le plan économique. Plus de 200 véhicules transportant du carburant et des marchandises sont bloqués à Mahagi Centre, à 185 km au nord de Bounia. Les transporteurs refusent d'emprunter la route nationale numéro 27, jugée trop dangereuse en raison de l'activisme de groupes armés. Résultat, le prix du carburant et des produits de première nécessité commence déjà à grimper, accentuant la pression sur les populations locales. Le point avec Isaac Remoyope.
Les tronçons Bounia-Mahagi à la frontière ougandaise est l'artère principale d'approvisionnement de l'Ituri. Mais pour les transporteurs, ce trajet est devenu un véritable parcours du combattant. Les convois sont régulièrement la cible d'hommes armés, surtout dans les territoires des Djougou. Dernier cas, mardi près du village de Matete, deux véhicules sont tombés dans une embuscade. Un chauffeur étranger a été tué et un autre conducteur ainsi que ses passagers ont été dépouillés. D'autres transporteurs sont contraints de verser de l'argent sous la menace à des miliciens qui installent des barrières illégales le long de la route. Face au risque de perdre leurs marchandises et parfois la vie, de nombreux commerçants ont préféré immobiliser leurs camions à Mahagi Centre en attendant une intervention des autorités pour garantir la sécurité. En attendant, les conséquences se font déjà sentir sur les marchés. À Bounia, les litres de carburant passaient de 3300 à 4000 francs congolais et pourraient encore augmenter si la situation perdure. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
Cap maintenant sur le Nord Kivu. La situation humanitaire se détériore dans les territoires de Lubero. Le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire, lance un appel pressant à l'aide en faveur des centaines de déplacés installés à Diapanda et Mangourjipa, deux localités du secteur de Bapere situées à environ 120 km de Butembo. Ces familles ont fui il y a près de 3 mois les attaques répétées des rebelles ADF dans la région. Parmi les déplacés, de nombreux enfants souffrent de malnutrition, conséquence directe d'une alimentation insuffisante. À l'approche de la rentrée scolaire, le colonel Kiwewa insiste également sur l'urgence de fournir des kits scolaires à ses enfants afin de leur permettre de reprendre le chemin de l'école dans des conditions dignes. Le colonel Alain Kiwewa s'est exprimé au téléphone avec Marcel Papimukeba.
Les déplacés qui sont au niveau du secteur de Bapere, dans Mangourujipa, Diapanda et ses environs, depuis l'incursion avec les EDF, la population de Mangourujipa et de Diapanda, donc du secteur de Bapere, sont démunis de tout. Ils n'ont jamais bénéficié d'une assistance quelconque. C'est vraiment un problème, c'est vraiment un besoin. Ceux qui m'auront écouté parmi nos partenaires, je fais un plaidoyer à ceux qui viennent évaluer un peu la situation des déplacés dans ces secteurs de Bapere. On a encore besoin de cette assistance, surtout pour les besoins alimentaires qui posent également un problème, et surtout les enfants malnutris. Nous avons les enfants qui ne bénéficient absolument de rien. Ça nécessite vraiment qu'ils soient assistés d'une manière nutritionnelle. Et puis, bientôt, il y aura rentrée de l'école, donc ça nécessite également un appui en kit scolaire. Je profite aussi pour faire un plaidoyer à l'UNICEF pour voir un peu de quelle manière on peut aider ces enfants qui vont bientôt rentrer à l'école et les parents sont démunis.
Sud Kivu, entre mai et juillet dernier, Médecins sans frontières MSF a porté assistance à environ 2500 personnes dans le territoire de Calais. L'organisation a fourni des soins vitaux à une population en détresse dans un contexte humanitaire jugé alarmant. Selon un rapport d'évaluation publié à l'issue de cette mission de 2 mois, la situation sur le terrain reste extrêmement préoccupante. Sur les 24 structures sanitaires visitées, 15 ont été contraintes de fermer, 10 ont subi des dégâts importants et une quinzaine ont été pillés. Un tableau sombre dans une région meurtrie par des décennies de conflits armés. Un reportage signé Ronelin Tibonera.
C'est une intervention d'envergure humanitaire menée dans un contexte de tension où MSF a dû voler au secours des 2480 personnes pour leur prodiguer des soins vitaux. Dans un contexte marqué par un système de santé au bord de la faillite, MSF, entre mai et juillet 2025, a fourni des dons de matériels médicaux qui ont permis de soutenir les structures locales et de répondre aux besoins urgents de communautés, précise le rapport. Parmi les structures ayant bénéficié de cet appui, l'organisation cite les hôpitaux généraux de référence des Katana et Kalehe, ainsi que les centres de santé des Katana, Nourou, Mabingu, Luchébéré, Kalehe et Luzira. L'intervention de MSF s'est focalisée sur la prise en charge pédiatrique des enfants de moins de 5 ans, les traitements de la malnutrition, les soins gynéco-obstétricaux présentant des complications et les soutiens aux victimes des violences, indiquent les documents. Malgré ces efforts, l'insécurité persistante dans certaines zones où les besoins sont pourtant criants constitue un frein majeur aux activités humanitaires, reconnaît Muriel Boursier, chef de programme MSF à Bukavu. Il existe encore des zones où nous ne pouvons pas intervenir alors que les besoins restent immenses. Il est essentiel que tous les acteurs garantissent un passage sécurisé pour l'aide humanitaire et qu'un approvisionnement régulier en médicaments et aliments thérapeutiques soit assuré par le ministère de la Santé et ses partenaires. Trop des centres de santé sont aujourd'hui gravement sous-approvisionnés, a-t-elle ajouté.
Diplomatie économique. La République démocratique du Congo et le Brésil s'apprêtent à franchir une nouvelle étape dans leur coopération bilatérale. Les deux pays ont convenu de signer en novembre prochain un accord commercial actualisé en marge de la COP 30 prévue à Belém au Brésil. Ce texte intégrera notamment des dispositions sur la facilitation des investissements avec pour objectif de dynamiser des échanges économiques et commerciaux. Dans cette dynamique, une mission économique brésilienne est attendue à Kinshasa en prélude à une visite congolaise au Brésil. Ces échanges devraient déboucher sur la tenue du tout premier forum économique RDC-Brésil, une avancée majeure issue d'une réunion stratégique tenue mercredi à Brasilia entre le vice-président brésilien Gerardo Alckmin et le ministre congolais du commerce extérieur Julien Paluku-Kahungia, qui renforce la diplomatie commerciale congolaise. On écoute Julien Paluku au micro de Alain Hiro.
Nous avons été reçus par le vice-président qui est en même temps ministre du commerce extérieur, avec lequel nous avons échangé beaucoup de sujets. Et sur le plan technique, il a délégué son vice-ministre qui, en fait, nous a permis d'explorer un certain nombre de domaines. Le premier étant celui de la signature en vue d'un accord entre le Brésil et la RDC, parce que l'accord qui existait date de 1973. Parce qu'on ne va pas se limiter seulement à l'accord commercial, mais on va y inclure des matières relatives à la facilitation des investissements qu'en marge de la COP 30, qui sera organisée en novembre 2025 à Belém, ici au Brésil, que nous puissions signer cet accord commercial entre la RDC et le Brésil. Et je crois que ça sera à la grande satisfaction des deux présidents, à savoir le président Lula et le président Félix Tshisekedi.
À noter que peu avant cette rencontre, le ministre Julien Paluku a assisté à la signature de l'accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services entre la RDC et le Brésil. Dans la province de la Tchopo, la mairie de Kisangani passe à l'action pour lutter contre l'insalubrité publique. Dans le cadre de cette initiative, le maire Lili Likunde a commencé la distribution des poubelles publiques aux bourgmestres de différentes communes sous sa juridiction. Première étape, la commune urbaine de Kisangani, où le bourgmestre a remis ses équipements hier au chef des quartiers de sa municipalité. Un reportage signé Jacques Mukonkole.
Le premier lot est constitué de 24 poubelles publiques. Selon le bourgmestre de Kisangani, Gibson Boindi-Liele, dans un premier temps, elles seront installées dans trois quartiers situés le long de la RN4, la route qui mène vers l'aéroport international de Bamboka. Il en spécifie l'utilisation.
Ces poubelles, c'est pour placer ça sur la voie publique. Nous ne pouvons pas permettre que les déchets ménagers soient versés dans ces poubelles. J'invite toute la population de ma juridiction d'en faire un bon usage.
Quelques chefs de quartier saluent ce geste qui permettra de lutter contre l'insalubrité sur les voies publiques. Ils promettent de sensibiliser leurs administrés afin d'adopter un comportement responsable.
Que cet acte du maire de la ville ne soit pas peine perdue. Que chaque individu ait l'habitude de jeter les déchets dans les poubelles publiques. Nous allons entretenir la population sur le bien fondé de ces poubelles parce que le maire de la ville ne veut pas voir des déchets dans les caniveaux.
Le bourgmestre Gibson Boindi précise que ces poubelles seront vidées chaque samedi avant d'acheminer les déchets vers un site approprié pour leur destruction. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Aux États-Unis, une cour d'appel fédérale de Washington a validé mercredi 13 août le droit du gouvernement Trump de réduire drastiquement l'aide internationale. Cette décision annule un jugement antérieur qui exigeait le rétablissement des fonds votés par le Congrès. À son retour à la Maison-Blanche en janvier, Donald Trump avait gelé plusieurs milliards de dollars destinés à l'aide humanitaire tout en mettant fin aux activités de l'USAID, l'Agence américaine de développement, présente dans près de 120 pays. La Cour d'appel a estimé que les plaignants n'avaient pas d'intérêt juridique suffisant pour contester ces coupes, jugeant qu'aucun préjudice direct ne leur a été démontré.
L'invité.
Face aux multiples crises qui secouent la République démocratique du Congo, notamment dans sa partie Est, les confessions religieuses réunies au sein du Conseil interreligieux congolais CIC montent au créneau à l'initiative de la CINCO et de l'ECC. Elles proposent des réformes du pacte social pour la paix avec pour objectif de promouvoir une paix durable fondée sur l'inclusivité et l'unité nationale. Invité de Radio Capi, l'archevêque Dodo Kamba, coordonnateur du CIC, estime que cette démarche vise accompagner les acteurs politiques dans leur quête de stabilité à travers le pays. Il s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour l'archevêque Dodo Kamba.
Bonjour monsieur.
Vous venez de dévoiler les rapports d'analyse visant à améliorer les pactes sociaux pour la paix de la CENCO et de l'ECC. Quelles sont vos motivations?
Eh bien, c'est pour mener en bien une initiative qui est salutaire pour le pays. Et nous avons travaillé en âme et conscience pour pouvoir, nous rassurer et rassurer la population en même temps et que les institutions n'auront pas de problème. Ce qu'il faudrait rappeler ici, qu'il n'y a pas une crise de légitimité et qu'il y a tout simplement des éléments à toucher pour pouvoir faciliter l'harmonie entre peuples, surtout à cause de cette méfiance qu'il y a entre politiques. Il faudrait admettre que nous sommes dans une phase où il faudrait rapprocher les gens, trouver à la mesure du possible une cohésion nationale et au nom de la paix, nous devons travailler. Nous avons tout intérêt à présenter des choses qui puissent rapprocher le plus possible les acteurs politiques et même ceux de la société civile.
Vous ne craignez pas, à travers cette démarche, de créer l'exclusion dans la diversité?
Nous avons travaillé avec beaucoup de lucidité. Il faut admettre que dans notre façon de faire, nous avons tenu compte de certaines valeurs pouvant faciliter les choses entre institutions, organes et acteurs politiques, entre eux, il faudrait le dire comme ça. Donc nous avons travaillé en âme et conscience. Nous avons utilisé les scientifiques, les experts dans le domaine, tout en tenant compte de la grande vision prophétique que Dieu nous a donnée.
Que répondez-vous, l'archevêque, à ceux qui estiment que les politiques vous instrumentalisent ou vous divisent pour mieux régner?
Ça fait partie des méthodes de certains qui se plaisent à diviser la communauté, créer de problèmes entre ethnies, entre religieux et tout ça. Mais heureusement, nous sommes avertis. Nous essayons, à la mesure du possible, de trouver l'homogénéité pouvant nous amener à un même langage. C'est vrai qu'il y a des divergences, il y a dans notre façon de faire et de voir les choses, on est toujours pas dans le même dogme, doctrine et autres, et même au sein des politiques, la vision n'est pas la même. Il y en a qui voient les choses tout à fait différemment, mais nous essayons, comme nous l'avons dit, à converger des vues à la mesure du possible. Et ça, c'est notre travail. C'est la raison pour laquelle nous avons élagué quelques dispositions qui fâchent un peu le texte légal et le règle établie.
Quel est le message que vous lancerez à travers la Radio Capi, Radio de la Paix, à toute la population congolaise qui attend de vous les solutions, vous, archevêques, évêques, pasteurs et autres religieux?
Je rassure à la population que nous sommes appelés à avoir le même langage. D'abord, entre nous, en tant que religieux, il y a de ces valeurs qui font à ce que nous puissions, au regard de nos textes de base, c'est-à-dire pour nous la Bible, pour ceux de l'islam, le Coran, ce sont des livres qui nous permettent d'avoir un certain comportement, ce qu'on appelle l'éthique chez nous, et les tacts qui conviennent pour pouvoir vivre ensemble entre nous en tant que religieux. Ça nous rassurons, quels que soient nos points de vie qui soient différents, mais nous finirons par parler le même langage, nous finirons par nous entendre, ça c'est rassurant. Et puis, nous disons à la population que nous travaillons pour que, même s'il y aura entente, dialogue ou quelque chose de ce genre, nous le ferons de manière à ne pas déranger la quiétude de la population et rassurer la cohésion nationale, trouver le moyen qui puisse ramener la paix dans le pays. Et ça, c'est notre travail, c'est notre vocation, c'est notre apostolat même.
Archevêque Dodo Kamba, nous vous disons merci.
Moi également, merci.
Notre invité est Dodo Kamba, coordonnateur du Conseil interreligieux congolais, qui s'exprimait sur les réformes proposées du Pacte social pour la paix, une initiative portée par la CINCO et les CC avec pour ambition de renforcer l'unité nationale et accompagner les efforts de paix à travers le pays. Ainsi s'achève cette édition de votre journal d'information sur Radio Okapi. Nous vous remercions sincèrement de nous avoir suivis. Même si ce journal touche à sa fin, Radio Okapi reste à vos côtés à travers ses programmes variés, ces reportages de terrain et ces plateformes numériques. Restez connectés à nos ondes et à notre site web pour ne rien manquer de l'actualité nationale et internationale. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle édition.